Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU carré petit utile.
Dans cette release de CPU en mode Lost and Found, c'est la rentrée pour l'année 2026-2027. Deux échéances politiques qui vont nous faire suer. Moreno, l'homme qui a la carte. Et ce qu'on vous a préparé dans la canicule. L'équipe aujourd'hui, Daskritch, Gabriel, tout fait enflammer. Et j'espère que vous avez enfermé vos smartphones au vestiaire comme l'exige maintenant la loi. Non, humour. Ok, allez, on y va.
CPU carré petit utile.
Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Bonjour Touf.
Bonjour.
Bonjour Benoît.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Benoît, je suis occupé à autre chose.
Oui, je sais que tu es pas là, j'ai bien lu ton motif d'absence. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui es fébrile et impatient de cette nouvelle rentrée, nouvelle année, nouvelle classe, sans se douter que cette année pourrait être aussi spéciale que celle de notre deuxième saison, celle qu'on a produite en 2016 et 2017, car on est dans la même conjonction d'astres politiques. Oui, cela fait 10 années que nous n'avions pas eu en France une telle instabilité politique, en fait quasiment la même situation. Un président de notre propre nation qui ne peut que partir, un renouvellement complet de l'exécutif et du législatif de par notre constitution, des partis dits de gouvernement en totale déconfiture, des partis extrémistes en vogue grâce à des influences étrangères, des sondages sur le second tour des présidentielles dont le vainqueur n'est peut-être pas présent dans les hypothèses envisagées, et un allié superpuissance militaire devenu hostile à cause de son chef énervé, arriviste, opportuniste et inconsistant. Et la politique, oui, elle instrumentalise la technologie et on ne peut que le constater. LFI qui génère des images avec une IA d'extrême droite tout en promettant de défendre les artistes. Le PS qui risquait d'avoir moins d'idées politiques que de candidats qui a proposé de taxer ton débit internet à l'usage. Les Verts qui ne veulent pas de data center en France, eux dont les emails semblent hébergés chez Infomaniac, donc en Suisse. La droite qui veut absolument tracer qui fait quoi et donc demander ta carte d'identité pour aller sur Internet sous prétexte de lutter contre la pornographie et la vente de bouteilles de gaz hilarant. L'extrême droite qui exige une liberté de parole débridée sur certains réseaux sociaux, mais surtout pas pour les autres. J'ai même pas besoin de caricaturer. Tout est vrai. Triste France. Et je n'en mettrai pas plus de couches, sinon il faudrait strictement veiller à l'équilibre du temps de parole dans les règles de l'ARCOM, règles qui sont trop oubliées par certains médias conventionnés et qui sont totalement illusoires sur certains réseaux sociaux. Et la politique est rattrapée par les faits. Le changement climatique nous a tous frappés de plein fouet cet été, même le difficilement imaginable quand Cogent appelle tous les clients de leur data center de Rennes afin d'éteindre des équipements, la clim n'ayant pas été conçue pour des températures tropicales en Bretagne. Ou encore alors que pratiquement tous les services de l'État sont victimes de piratage. Le seul service public à n'avoir pas été victime de fuite de données est celui qui regroupe les notes de frais des élus. Comme par hasard. Pendant ce temps, nous, en tant que développeurs, on a tenté pendant 20 ans d'optimiser les ressources, de proposer avec la même puissance informatique des services plus puissants, de faire durer nos ordi perso, nos smartphones et nos serveurs le plus longtemps possible et ces gougnafiers empereurs de l'intelligence artificielle dépensent un pognon de malade, déploient une puissance technologique de dingue absolument pas du tout optimisée pour pondre au plus vite leur modèle LLM IA générative. Résultat, c'est l'ensemble de l'IT qui est mal vu, à cause d'une dizaine d'acteurs au comportement très très questionnable. Parce que quelques data centers de Tesla, OpenAI, Meta, AWS et Oracle utilisent 24h sur 24 des groupes électrogènes au gaz. Le très grand public soupçonneux en a conclu très vite que n'importe quel data center en France utilise continuellement ces groupes électrogènes. Alors que non, c'est pas du tout rentable. Ils ne servent au plus qu'un jour par an, qu'un data center normal. C'est comme pour les hôpitaux, c'est pas parce que t'as des groupes électrogènes installés quelque part que tu t'en sers. Au contraire, s'ils s'allument, c'est un début de panique. Ce que nous, spécialistes de l'IT consciencieux, on a difficilement bâti en termes d'efficience, d'inclusion, d'éthique et de citoyenneté, se fait écraser par de nouvelles multinationales qui épuisent les finances mondiales, les ressources terrestres et puis les richesses intellectuelles. Et pourtant, au fond du futur immédiat, on va se prendre des tonneaux de contre-vérités dans la grande cour de récré de la campagne électorale appuyée par des vidéos générées par IA afin de s'auto-confirmer un propos souvent fantaisiste qui va dans le sens de ses opinions politiques plutôt que de se baser sur des faits. Et pire que tout, nous sommes devenus complices. Regarde les développeurs qui sont passés au vibe coding ou à l'assistance par IA. Un sondage demandé par Coditech, une société de formation professionnelle en programmation, révèle que 80% des développeurs interrogés disent que leur métier n'est pas forcément devenu meilleur, mais qu'ils sont devenus addicts à l'IA. Un peu comme après leur premier joint au lycée ou leur premier post sur Instagram. Le joint, tu viras au lycée. Oui, nous avons des questions à nous poser. D'ailleurs, on ne va pas se mentir, mais je ne serais pas surpris que nombre de votants l'année prochaine vont choisir leur bulletin suite à une réponse issue d'une IA. Un service qui apparemment hallucine un résumé quand il ne peut lire un article ou un livre en entier. Un service aussi qui se fait lourdement manipuler par des intérêts étrangers. Un service commercial édité par des entreprises qui ont leurs propres opinions qui ne vont pas forcément dans l'intérêt de leurs clients. C'est pour ça aussi que nous faisons CPU, une émission sur les technologies qui a un regard pensée, documentée, critique et parfois drôlatique. Nous faisons en sorte d'expérimenter dans un sujet plutôt que de le survoler. Nous ne sommes ni techno-béats ni techno-réfractaires, mais nous essayons de sous-peser et trouver les références des deux arguments. Pour justement ne pas tomber dans la version binaire dans laquelle tous ces prétendants au rond de cuir ministériel veulent enfermer nos pensées, pour aussi comprendre comment nos outils numériques peuvent présenter un biais, voulu ou non. Et donc ce qui pourrait devenir une décision politique qui nous impactera tous. Enfant du futur immédiat, prépare très bien ton cartable numérique pour cette rentrée, car l'année politique va être forcément désastreuse, et j'ai très peur que notre démocratie n'en sorte pas renforcée. Alors prends des notes, manuscrites, elles pourraient servir pour quand tu seras devenu historien.
On cherchait un candidat d'enfer, un genre de Jaurès, mais en moins vieux,
qui sauverait la France de la misère et de Brice Hortefeux.
Pour une république exemplaire, qui défendrait les veuves et les gueux, Manuel Valls s'est porté volontaire, mais on a trouvé mieux.
Oui, on a trouvé mieux, on a notre lumière, notre héros, notre demi-dieu.
Que Jean-Michel Blanquer, plus sage que la haute.
Faites-lui un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs.
Voici venue une nouvelle ère, Meurice 2022.
Meurice 2022. Meurice 2022. Meurice 2022.
Égalitaire, je défendrai les jeunes comme les vieux,
wow,
et les humoristes de France Inter, les plus nécessiteux.
Wow, il est encore plus beau qu'à la radio.
Après des années à part Jupiter, il est temps d'être un peu ambitieux. J'ai la force qu'il faut pour le faire, je serai victorieux.
Tu seras victorieux, vainquant tes adversaires à sans avoir froid aux yeux.
Je serai le nouveau Jupiter, je brillerai dans les cieux.
Admirez sa crinière, poivre et sel, comment ça fait sérieux.
Chantons tous, oui mes sœurs, oui mes frères, Meurice 2022.
Oh la cigale,
Meurice 2022.
Guillaume, tu nous fileras un ministère.
Ah ouais.
Attendez, c'est-à-dire que je...
Au moins un poste de secrétaire.
Attendez, c'est qui eux?
On est fan club.
Je remplacerai bien Bruno Le Maire.
Ah, je pensais plutôt à Dominique Seu.
Tu le trouves pas trop réactionnaire?
Enfin, soyons sérieux.
Ah ouais, c'est un peu bizarre, là.
En France, y'a trop peau de fonctionnaire. Les allopes ça coûte la peau des yeux. Les assistés ça commence à bien faire.
Il a pris un coup de vieux.
Je passerai la France au Karcher.
Calme-toi, t'as l'air un peu nerveux.
Je fermerai toutes les frontières.
Il fait flipper un peu.
Il fait flipper un peu.
Ce qu'il faut c'est une bonne guerre, comme disent les meilleurs
de nos aïeux.
Finalement je crois que ça va pas le faire, faudrait qu'on trouve mieux.
Retourne à France Inter, t'es peut-être pas prêt pour 2022.
Allô Charles, Van den Ecker, par pitié reprends le
rêve. Meurice 2022.
Ah c'est fini monsieur, hein, il va falloir arriver.
Meurice 2022.
C'est moi.
Et bon, la chatte est belle, hein.
Goguette 2022.
Les Goguettes en trio mais à 4 et Guillaume Meurice, Meurice 2022, en live. Si vous doutiez encore, vous écoutez Radio FMR.
Dans cette saison de CPU...
On ne se base que sur des faits, pas des opinions.
Non mais c'est pas vrai, mais ça...
Quoi ?
Bah tu vas voir, il va faire une suggestion d'achat de programme à...
pour ne se fâcher avec personne.
C'est parce que vu qu'il n'y a rien à faire, bah finalement les étudiants restent tout leur temps dans les labos, dans la bibliothèque pour travailler.
Ce qui n'était pas déconnant au début d'un écosystème.
Il y a l'Intel Management Engine, parfois surnommé Ring-3. Il y a le Ring Octogone de la Maison Blanche.
Mais tu veux qu'il me braque la caisse à outils ?
Who you gonna call ?
Ghostbusters !
555-2368. Oh purée, mais je viens de comprendre comment a été écrit Teletubbies.
Ça targetait le GPU. Le GPU intégré.
Okay. Et le GPU, c'est faire du DMA, des choses comme ça. Et...
Okay. Ouais. C'est comme coder un programme TypeScript pour que le compilateur oublie de produire un exécutable, mais se mette à faire tourner Doom.
Très bonne question. Alors, pour répondre...
C'est la troisième fois, très bonne question.
Ah oui, mais vous me posez des bonnes questions, les gars.
Philippe Boucher, dit Monchou, mes collègues de crossover, le samedi, midi 14h, toujours sur FMR, viennent de pleurer de joie. Autopromo, autopromo.
Mais il y a une certitude, c'est qu'ils ne sont vraiment pas loin et qu'on parle peut-être d'un retard de 3, 4, peut-être 4 mois, on va dire, grand maximum.
Deux adultes à la mentalité d'ado qui s'amusent à construire des trucs ont une tendance naturelle à exploser les 10 trucs ou leur tirer dessus au fusil mitrailleur. L'erreur semble venir d'un seul composant fautif, mais il est difficile de l'identifier parmi ces quelques dizaines de milliers.
Si je reprends le parallèle d'Airbus, nous sommes toulousains. Si on se rend compte qu'on a un problème de sécurité une fois qu'on a livré 600 avions, c'est problématique.
L'idée d'un sommaire, d'un guide, d'une page suivante et d'un retour possible sur une précédente, quelle que soit la page du site web ainsi correctement architecturée, c'est...
Bon Dieu, mais c'est bien sûr.
Alors, allons à l'essentiel. C'est qui a validé cette idée ? Qui ?
CPU, l'émission Carré Petit Utile de Radio FMR, les jeudis à 11h.
Celui qui deviendra un grand bricolo né au Caire le 11 juin 1945. Le monde sort meurtri de la Seconde Guerre mondiale et les grands empires s'effondrent. Sa mère quitte l'Égypte avec lui, alors adolescent, direction Paris. Il y fera son lycée et passera son bac, mais n'arrive pas à se concentrer sur ses études. Il entre donc dans la vie active avec des petits boulots, allant de la voirie à employé de bureau, boucher à coursier, et le soir, il bricole dans sa mansarde différentes inventions pour rigoler et puis pour réfléchir, voire parfois les vendre. Il est autodidacte, intuitif, curieux et parfois farceur, comme un certain Gaston Lagaffe. Et tout comme le personnage de bande dessinée, il expérimente dans sa chambre de bonne la bricolabilité et la miniaturisation des composants électroniques. Inventant par ici une machine à tirer à pile ou face, ou par là une machine à calculer électronique, il fera justement le tour des constructeurs et importateurs présents sur Paris avec sa machine à calculer, et c'est dans les bureaux d'un constructeur américain qu'il va découvrir que ce dernier va en importer une. Ruinant toute possibilité de breveter son invention. C'est un autre objet qui va entrer dans les portefeuilles, qui va titiller ses méninges. À cette époque, la carte bancaire en plastique existe déjà dans son format de 85,6 mm par 54 mm, normé ID1 ISO IEC 7810. En fait, son usage premier était de garantir au vendeur que vous aviez le droit de lui signer un chèque. Oui, une simple preuve d'identité avec votre signature, délivrée par un organisme financier privé. Un rôle qui se justifie dans les pays anglo-saxons où la carte d'identité n'existe pas, ni aux États-Unis ni au Royaume-Uni.
Multipass.
Dans les années 1950, Diners Club puis American Express vont en faire un format de paiement simplifié, permettant au restaurateur ou l'hôtelier d'appeler un centre téléphonique pour valider le paiement, plutôt que gérer les traveler's checks, ardoises et autres monnaies de singe. Telle une robe de Paco Rabanne, la carte de paiement se fait plastique durant les 60s et commença à fortement intéresser le secteur bancaire qui réfléchit à simplifier la gestion du paiement par les commerçants. N'oublions pas que dans les années 1960, la banque est le premier secteur employeur de France, avec un arrêt aux pages de commis aux écritures et autres comptables. Tout, absolument tout, se faisait au papier, même les saisies sur les gros ordinateurs. Devenant par sa pétrolisation nettement plus durable que la version carton, l'information client imprimée sur la carte prend du relief, de manière à ce qu'un sabot bancaire copie l'empreinte de l'embossage sur la facturette en papier carbone. On pose la petite carte ici, au milieu de la plaque métallique avec les infos du commerçant, on pose le formulaire carbone, on écrit ici le montant de la facture et on joue violemment le sabot, allez, et retour. Y a plus qu'à signer la douloureuse ici, honorable client. La sécurité se certifie par la possession de la carte de paiement et la signature du client sur la facture. Sentant la menace d'American Express qui a une forte expérience et l'appétit vorace de s'installer en Europe de l'Ouest, 6 banques françaises s'unissent en 1967 et créent le GIE Carte Bleue avec donc la carte plastique, les compensations bancaires et les commerces clients heureux de ne plus avoir à gérer la monnaie. Le premier distributeur automatique est inauguré à Londres en 1967 et étonnamment, la piste magnétique et le code PIN n'arriveront qu'en 1972. Donc quand Roland Moreno commence à réfléchir à y mettre une logique électronique embarquée, la carte en plastique supporte comme information ce qui a été sérigraphié, ce qui a été embossé pour être dupliqué au sabot mécanique et une piste magnétique. Des informations en clair et pour certaines pouvant être manipulées par le premier bricoleur éclairé, doué et motivé. Roland Moreno n'est pas ingénieur, mais il est ingénieux, créatif, et il se dit qu'il y a moyen de sécuriser la petite carte en y intégrant le tout jeune microprocesseur et des informations non volatiles. Roland Moreno est le gourou. Et on l'a dit, l'individu est un trublion. Il racontera dans son autobiographie « Théorie du bordel ambiant », qui objectivement a hurlé de rire, que l'idée de l'invention qui a fait sa fortune, la carte à puce, lui est venue après avoir fumé un gros tarpé. Oh pétard, il était stone. Et en 1990, dire à la télévision qu'on fume de la drogue aussi ouvertement est franchement culotté. Quand il lâche son anecdote en direct à Michel Drucker, le présentateur est aussi défait par la réponse que quand le même Drucker devra annoncer en 2006 que l'ordi a gagné à l'Eurovision. Revenons donc en 1974 sur son éclair de génie. En gros, ce qui prenait le plus de volume dans les nouveaux microprocesseurs était la capsule en bakélite et les pads de connexion. En plaçant une électronique ultra minimaliste et en mettant des connecteurs larges avec de simples picots de contact dans le terminal lecteur, le système électronique embarqué peut tenir dans le format carte bancaire ou dans une bague comme il imaginait dans le premier brevet. La puce apporte sa logique et quelques registres minimums et est alimentée une fois insérée pour discuter avec le terminal. Son usage n'est pas de mettre un vrai microprocesseur, mais une logique électronique minime mais robuste avec un démarrage applicatif immédiat. Conscient du potentiel de son invention, Roland Moreno fonde la société Innovatron afin de commercialiser ses brevets, mais malgré sa bonne volonté et sa bouille sympathique, il n'arrive pas à transformer l'essai. La France a boudé pendant des années sa carte à puce. C'est en 1984 qu'enfin elle va séduire la Direction Générale des Télécommunications, future France Télécom, future
Orange.
À l'époque, pour téléphoner à quelqu'un quand on n'était pas chez soi et que le dernier bar est à quelques bornes, on appelait depuis une cabine téléphonique publique en y mettant des pièces de monnaie. Évidemment que ces cabines étaient très régulièrement vandalisées. Une tirelire laissée toute seule dans la rue sans surveillance, aussi blindée que soit son capot, se fera forcément déglinguer.
Allô ? Non mais allô quoi ?
France Télécom va créer la télécarte et donc initier les Français à la carte à puce. Les premières télécartes comportaient 25 ou 50 unités prépayées. Le principe existait déjà dans d'autres pays, utilisant soit la piste magnétique, donc toujours manipulable, soit un système optique avec une fiabilité très aléatoire, soit une désuète perforation mécanique pour le Japon. Comment ces unités étaient décomptées ? Très facilement. L'électronique disait combien d'unités y restaient dans la carte en comptant les bits de prom encore vierges. Puis la télécabine enregistrait un bit à 1, ce qui la décomptait comme utilisé. Sur une prom, le passage d'un bit à 1 est irrémédiable. On la grille, ce qui empêche tout retour à la valeur 0. Vu les dimensions de la carte et sa logique minimale mais existante, il est extrêmement compliqué pour un bricolo d'arriver à changer la prom de la carte ou de gruger un lecteur. En tout cas, économiquement pas rentable. Et c'est donc en fumant un con que Moreno eut cette idée simplissime. Pour faire une analogie avec l'époque, il a recréé le système du collier à perles prépayé du Club Med qui démonétisait les vacances. Un design simple, élégant, facile, économique et surtout pas encombrant. Si les cabines téléphoniques ne furent plus attaquées pour les pièces, d'autres filous vont tenter de gruger le système de télécarte, par exemple en collant un bout de scotch sur un des contacts de la puce. Bah ouais, ça a marché, mais que sur les premières générations de cabines. Puis le système s'est complexifié, et avec la télécarte 120 unités, une véritable logique a pu être embarquée. On passe à un vrai SoC, System on a Chip, avec un microprocesseur, un logiciel en ROM et un peu des probes. Logique et robustesse primodiques qui séduiront enfin les banques et le GIE carte bleue en 1987. La télécarte eut très vite un succès, à la fois en réduisant le vandalisme, France Télécom remplaçant les monnayeurs de cabines téléphoniques par des lecteurs à cartes, et aussi en s'invitant dans la poche du public. Popularité qui s'accentuera avec l'idée originale de thématiser des télécartes en objets publicitaires et événementiels, transformant le bout de plastique monétaire en objet pop et chébrant. Quand je pense que ma génération collectionnait frénétiquement les télécartes rares en espérant spéculer avec... C'était 10 ans avant Magic the Gathering, et depuis, bon, ça vaut plus rien. Ben oui, la popularisation de la téléphonie mobile est passée par là. Téléphones portables qui intégreront avec le système GSM justement la carte à puce en 1991, la carte SIM séparant l'IMEI, l'identité du terminal téléphonique, de l'IMSI, la ligne de l'opérateur mobile. Pendant encore 10 ans, les Américains en CDMA s'enquiquineront à transférer leur ligne quand ils changeaient de téléphone à clapet. Bon, pour être honnête, les dernières unités télécartes furent consommées en France en 2016. Oui, en toute discrétion, le système s'était lentement éteint, tels les services Minitel, nés à la même époque. En plus d'Innovatron pour la diffusion de ses brevets, l'invention de Moreno sera industrialisée par une entreprise ad hoc, GemPlus, qui produira ses cartes à puce et les terminaux de lecture. GemPlus deviendra Gemalto suite à la prise de contrôle par un actionnariat américain douteux et reviendra dans le giron français suite à des péripéties dignes d'un polar économique. Elle est actuellement connue sous le nom de Thales Digital Identity and Security et reste le fabricant leader alors que les brevets fondamentaux ont expiré depuis un bail. La puce permet à la carte d'avoir aussi des fonctions sans contact en RFID et NFC, encore un brevet de Moreno, voire d'intégrer un générateur afficheur de code jetable type TOTP pour les paiements en ligne. Quant au sinistre sabot à carte bancaire, il n'a pas totalement fini sa carrière puisque des banques françaises délivrent toujours des cartes de paiement avec les infos de compte embossées en relief. Alors pourquoi Roland Moreno a marqué ? Parce qu'il a créé une invention incroyablement simple et ingénieuse et que cette invention est devenue très populaire, toujours vivante en carte bancaire, en puce SIM et certains appareils sensibles. Parce qu'il avait cette dégaine et des contractions d'un Gaston Lagaffe, donc imaginatif, original, rieur, mais qui a réussi à devenir riche. Parce que son bouquin « La théorie du bordel ambiant », publié en 1990, est à se décrocher les zygomatiques, où il livre sans gêne ni fausse pudeur ses hasards de l'invention. Et qu'il a démontré qu'un autodidacte peut réussir à se faire une place parmi les géants industriels, dans une France élitiste ou théoriquement sans diplôme, point de salut. Relire son livre 40 ans après montre combien certaines remarques sont toujours d'actualité. Roland Moreno nous a quittés le 12 avril 2012. Il a été choisi comme personnalité remarquable pour l'année 2026 par l'association Silicium, qui est partenaire de notre émission. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre première édition de news pour septembre avec l'ensemble de la rédaction, Touf et Gabriel. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Bonjour Touf.
Eh ouais, c'est moi, Gabriel.
Monsieur, pour voir si tu suivais.
Je suis vexé, commence.
Larry Sanger, cofondateur de Wikipédia, a été exclu de l'encyclopédie collaborative. Il accuse une foule anonyme de contributeurs aux intérêts intéressés. Ouais, référence nécessaire.
Justement à ce sujet, le site linuxfr.org pourrait perdre sa fiche Wikipédia, faute de sources sérieuses sur sa page. Alors que le même site sert de source de référence dans nombre d'articles concernant le logiciel libre. C'est pas la première source de référence primaire à être simplement boudée par l'encyclopédie.
Pendant ce temps, une étude en OSINT montre que la plupart de la presse française utilise soit les outils Microsoft, soit les outils Google pour leurs emails, leurs communications et les partages de documents. Quand faudra monter un dossier concernant un sujet très sensible avec les États-Unis, ça pourrait être su par la NSA avant même la conférence de rédac. Et Edward Snowden n'aurait pas eu l'occasion de fournir ses documents.
Moscou et Pékin collaborent secrètement pour essayer de détruire la constellation de satellites de Starlink. Des journalistes de The Insider, Der Spiegel et Le Monde se sont penchés sur un PowerPoint de la China Aerospace Science and Technology Corporation, qui n'aurait jamais dû se retrouver en ligne. Le document en russe et mandarin rappelle quelques critiques objectives. La densité de satellites sur certains orbites et l'occupation de larges bandes de fréquences. Starlink est désormais devenu une infrastructure durcie pour des usages militaires suite aux tentatives russes et son architecture très décentralisée, ce qui le rend difficile à perturber. Stratégie envisagée par Pékin, des pressions sur les instances internationales comme l'ITU, un brouillage électromagnétique et la destruction physique de satellites. To kill a constellation. Enfoncé, James Bond. Bizarrement, entre Musk et Poutine plus Ping, j'ai du mal à prendre un camp. Brrr.
Si les dernières mises à jour de Windows sont monstrueusement lourdes, soyez rassurés. C'est seulement en cause d'un bug dans la mise à jour de juillet, qui occupe plusieurs gigaoctets au lieu de quelques dizaines de mégaoctets. Donc ce n'est pas une tentative de spéculation pour les SSD. Arrêtez de critiquer, vous n'avez pas la vibe coding.
Oh, vous êtes juste jaloux de ne pas avoir spéculé.
Quel noob, ça, c'est pauvre.
Incroyable, Microsoft piège de partout son système Windows pour forcer à utiliser ses services. On l'avait pas vu venir. Genre, modifier à la volée les pages web de sites concurrents, ceux de Google et Mozilla. Copilot qui refuse d'utiliser votre navigateur préféré. Et du vol de données à la volée pour vous inciter à rester sur Edge. Rien qu'à le dire, j'ai l'impression de faire l'intro de 90 minutes enquête. Des comportements séditieux, sauf en Europe. On se demande pourquoi. Mozilla a sorti une étude passionnante sur le design offensif, l'UX malveillant et les manipulations très borderline.
Criminalité toujours. Dans le procès dont a été arrêté par le FBI, nous avons bien la confirmation que Microsoft attribue à chaque installation de Windows un identifiant unique, qui peut être remonté quand on visite un site, même via VPN, ce qui était le cas. Un identifiant très difficilement trouvable et a priori impossible à désactiver. Apple faisant sûrement pareil, il vous reste Linux, BSD et bien évidemment votre Amstrad CPC.
Allez, soyons gentils, on oublie que Microsoft, ce sont aussi des innovations pour vous faciliter la vie de tous les jours. La firme testerait en interne un Project Ion, sous ce nom de code, un environnement graphique entièrement basé que sur Copilot et le navigateur Edge. Un seul bouton accessible, Copilot. Tous vos fichiers seront sur Azure. Après quelques tests utilisateurs, Microsoft a été surpris de s'apercevoir qu'au bout de 48 heures, 90% des testeurs n'arrêtaient pas de volontairement redémarrer Windows dans l'espoir en vain de revenir à l'interface d'avant. J'ai hâte de voir Project Ion en entreprise, ça va criser.
Windows va maintenant redémarrer pour se mettre à jour. Ah merde, enchaîne. Putain, heureusement j'avais fait un tirage papier.
Il semblerait que l'épidémie d'usage exclusif de l'IA commence à agacer un certain public. Du Festival Off d'Avignon aux soirées animées dans les bars, le recours à l'image générée exclusivement par IA semble être devenu la norme, au point que plus personne ne se démarque sinon par son manque d'imagination. Soyez rassurés ici, dans l'émission CPU Carré Petit Utile, on essaie de produire que du contenu bio. Sauf la vignette du duo des news, on avait trop honte de l'état des bonnettes du studio de Radio Éphémère.
Ouais, le mien, il a un subtil parfum de 8-6 et tabac.
Le mien, ce sont des herbes et pas de Provence.
Sony annonce la fin du support physique pour les jeux vidéo, tout comme Nintendo et Microsoft. Mais ce que vous ne savez pas, c'est combien de pays elles seront alors exclues. Ainsi, pour tout le continent africain, seuls les habitants d'Afrique du Sud sont actuellement acceptés sur le PlayStation Store. On rappelle que l'autre très gros problème de la disparition du support physique dans le jeu vidéo est la préservation des titres lors de la fin de leur commercialisation. UFC Que Choisir est en procès avec Ubisoft sur la question de la réelle durée de l'achat d'un titre dématérialisé. Les joueurs ont immédiatement lancé un boycott à la PS5 Pro, qui va pas servir à grand-chose puisqu'à l'heure de la diffusion, cette console est en rupture de stock sur toute une partie de l'Europe à cause de GTA 6 qui sort en novembre, uniquement dématérialisé. On a beau avoir des convictions...
Dématérialisation encore, le Wall Street Journal a produit une vidéo YouTube très intéressante sur la débâcle de Microsoft dans l'édition de jeux vidéo et surtout dans le Game Pass, leur système d'abonnement à des titres de jeux vidéo. Microsoft voulait en faire le Netflix du jeu vidéo en achetant pour 80 milliards de dollars les éditeurs de Fallout, Minecraft, Doom, Halo, des mineurs, Fable, Call of Duty. Un pari perdu qui se traduit malheureusement en fermeture de studios et nombre de licenciements. Le lien vers cette vidéo passionnante du Wall Street Journal est dans la page des news. Suivez l'URL de cette release, cpu.pm/246.
Support dématérialisé toujours. Les clients ayant acheté des films sur la plateforme PlayStation Store n'y ont plus accès. En gros, les clients qui ont voulu regarder un film édité par Studio Canal sur la plateforme PlayStation en prenant l'option achat plutôt que location, ont découvert du jour au lendemain qu'ils ne peuvent plus regarder les 551 films et séries déjà payés suite à la fin du contrat entre Sony et Studio Canal. Une annulation de droits qui a déjà eu lieu en 2023 avec du contenu Discovery. Ils auraient fait une pub incitant au piratage, bah ça aurait été pareil.
Attends, Studio Canal, c'est pas le groupe Bolloré ? L'extrême droite tente-t-il une stratégie en repoussant dans la délinquance les possesseurs de PlayStation ?
Un remake de l'incendie du Reichstag. Pas mal, non ? C'est français.
Bon, vous l'avez suivi cet été, pratiquement tous les services des ministères français se sont fait hacker. De suite, faisons le point sur les données personnelles qui ont fuité via les services de l'État. Les impôts. L'assurance maladie. La poste. La MSA. Et France Identité.
Ouais, j'ai le quintet. J'ai l'intégralité des moyens de connexion de France Connect.
Monsieur Truc, vous êtes expert plateau en cybersécurité, merci d'être avec nous. Expliquez-nous la crise actuelle des différents piratages dont sont victimes les serveurs de l'administration française. Comment peut-on expliquer la situation ? Vous avez une minute.
Alors c'est très simple, il y a l'âge du système informatique, il y a l'absence de sanctions en cas de malfaçon manifeste, il y a le refus de faire des mises à jour de peur de tout péter, il y a les budgets faméliques orientés sur autre chose que la sécurité, il y a la volonté d'avoir de nouvelles fonctions très visibles plutôt que consolidées derrière, il y a trop peu de suivi sur les frameworks, il y a l'absence de formation en interne, il y a les cahiers des charges qui ne demandent jamais une conception dans l'état de l'art, il n'y a pas de relecture du code par des pairs, il n'y a pas d'experts indépendants régulièrement mandatés pour tester les systèmes livrés et ceux en place, il y a l'État qui est son propre assureur donc peu motivé à relever le niveau, il y a Microsoft qui fait du lobbying pour que l'État reste client de leurs services. Ce n'est qu'une toute petite partie de l'explication. Bien sûr, je n'ai pas encore pu aborder bien sûr les méthodes modernisables de gestion de projets IT au sein des ministères français et le laisser-faire de la CNIL entre les sanctions pour manquement au RGPD totalement anodin et le NIS2 toujours pas intégré dans nos lois. Et encore, je simplifie pour avoir le temps d'évoquer nos glorieuses nationales de S2I, épine dorsale de l'excellence française en informatique professionnelle.
56 secondes, très beau score, merci.
PC Soft, l'éditeur de Windev, le logiciel de zéro code aux pubs avec des femmes déshabillées, applique une nouvelle politique tarifaire très très coûteuse. Environ 250 euros par poste utilisateur de l'application Windev que vous avez développée. La communauté Windev est un peu énervée de découvrir ce que ça fait de dépendre d'un seul fournisseur. Comme disent l'union des DI clients de Microsoft, Me Too, la rédaction a un avis sur cet éditeur depuis des années. Et pas uniquement à propos de l'usage de la femme dans leur pub.
Outils créatifs, Blender vient de sortir sa version 5.2 LTS, Long Term Support. Et d'ailleurs, vous entendez la musique choisie pour la très impressionnante démo vidéo. Le studio de l'Institut derrière le soft 3D open source veut produire un film, un vrai long métrage intitulé Overgrown, réalisé par Jalti Jalmarsson et Rick Schutt, sûrement là aussi en open source. Ça changera du Bunny qui se prend pour Rambo. L'intérêt de produire ce film est d'affiner directement les outils de Blender, les développeurs étant au plus près de leurs utilisateurs. Du coup, ils produiront des tutoriels, des questions-réponses, tout comme les documents produits depuis 20 ans par un studio d'animation, mais accessibles par abonnement au studio Blender Vault. Le fruit de cet abonnement permet de financer ce film et le développement du logiciel.
La distribution Linux Debian vient de sortir leur dernière release supportant le jeu d'instructions x86 32 bits. Trixie sera mis à jour jusqu'en 2028 et après, mourront dans les différents générales les derniers Pentium 3. Un moment de silence pour l'architecture IA32 lancée par Intel avec le 80386 en octobre 1985. À nos Pentium, les nerds reconnaissants. Merci Weird Al.
Dans les crypto-monnaies, les algos, c'est la base. Et l'entropie pour générer les clés, la seule garantie que vos bitcoins ne s'envolent pas. Parce que le firmware d'une carte de portefeuille avait désactivé son générateur d'entropie embarqué, les développeurs de ce portefeuille ont créé leur propre générateur d'entropie logiciel. Trop facilement cassable, le générateur développé a deux exposants 88 fois moins de possibilités, environ 3 suivis de 26 chiffres avant la virgule, que celui que proposait nativement le matériel. Donc à poil plus prévisible. Si on avait une approximation de la date de création du wallet, on réduisait encore plus les possibilités. Résultat, les milliers de clients de cette solution ont eu leur compte irrémédiablement vidé. Le code source était public, l'info n'a pas été vue pendant 5 ans, près de 1600 bitcoins se sont évaporés. Au cours actuel, ça fait beaucoup de pépettes. Écrire de la cryptographie n'est peut-être pas à la portée d'un crypto-bro.
Le protocole SSH est enfin entièrement normalisé. Je me sens plus en sécurité maintenant que je sais que mes cadenas ont un RFC jusqu'au bout.
Au bout de quoi ?
De ta ceinture de chasteté. Elle évite les accidents sur le plateau.
Toutes les sources sont sur la page web des news de cette release, cpu.pm/246. Les infos reviennent après d'autres minutes dérisoires.
So cool, but you like that. I bring that mood, bring it right back. Fresh set, brand new, yeah, I like that. I like that, color me impressed. I got it all, yeah, I got the best. I got the goods like, yes. Like, yes. Let me show you that wow. Let me get down. Want it right now. Look at that wow. Look at that. Look at that wow. To the top when you rock with this. Show me what you got, so confident. Look at me, obsessed. Turning those heads, I got that effect. Got them like ready, set. Ready, set. Let me show you that wow. Let me get down. Want it right now. Look at that wow. Look at that. Look at that wow. Look at that wow. Let me show you that wow. Look at that wow. Look at that wow. Let me get down. Want it right now. Look at that wow. Look at that. Look at that wow. Look at that wow. Let me show you that.
The Mondays featuring Litty. Look at that wow. Bande son de la démo reel de Blender 5.2.
Look at that wow.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Pour savoir ce que lui réserve son avenir, l'homme et la femme ont essayé les astres, le marc de café, la forme des nuages et la date du bac. Connaissez-vous la secrétologie ? Découvrez une nouvelle science divinatoire taillée pour le monde moderne. La secrétologie voit votre avenir en étudiant votre mot de passe. Envoyez immédiatement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe par SMS+, afin de savoir ce que l'avenir vous réserve. La secrétologie, votre destin en toute confiance.
Secrétologie est une marque déposée par Church of Secrétology Foundation, LLC, Inc. All right registered worldwide.
Mon enfant regarde trop son smartphone. Elle a pas d'amis.
Il joue trop aux jeux vidéo.
Elle ne vit que sur les réseaux sociaux.
Que faire ?
Emmenez votre progéniture au bistrot des enfants. Vos fils et vos filles apprendront à se sociabiliser, à discuter avec les autres et à apprécier les boissons de notre terroir. Demandez l'ouverture d'un bistrot des enfants à votre mère ou auprès de la préfecture.
Ce message est sponsorisé par la Fédération des Brasseurs Industriels, le Consortium des Distilleurs de Pastis et CNews.
Vos retours nous aident énormément pour notre présence en ligne. Personnellement, je ne peux, pour des raisons religieuses, retourner sur X ou Meta, et faute de temps, je ne suis pas sur Reddit et d'autres plateformes, donc on est super ravis que vous annonciez nos émissions sur les plateformes où on n'est pas, en relayant l'adresse web courte de chaque émission. Et évidemment, likez, rediffusez, commentez. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de nous sur les sites et applis de podcast. C'est vraiment important pour nous motiver à continuer et même à convaincre les entreprises d'accéder à nos demandes d'interview. Allez, voyons tout le data love que vous nous avez partagé avec vos amis en parlant de notre émission CPU cet été. Durant l'été, nous avons rediffusé quelques émissions sur Radio FMR, ce que nous avons relayé en ligne, notamment en juillet, l'émission EX061, un casseur de briques pour fêter les 60 ans du jeu Arkanoid. Ce qui a fait un peu bizarre à Terry Chantier, alias Tonton Codeur, qui a répondu sur Blue Sky.
Arkanoid souffle 40. Non, ce n'est pas possible. J'ai fait une partie encore hier.
En référence à l'émission CPU EX121, l'autre révolution de 1968, elle aussi rediffusée cet été, Claude Aubry a répondu sur Ponos.
Ça m'a bien intéressé cette histoire de l'informatique, un peu avant que je commence à m'y mettre, sur des microprocesseurs Intel 8086.
Et suite au strike de Spotify sur nos émissions, je m'en suis ouvert sur LinkedIn, et entre autres réactions, j'ai noté celle-ci qui fait vraiment plaisir.
J'écoute sur le lien posté sur LinkedIn. Jamais j'utiliserai Spotify et encore moins pour la musique. On ne possède pas ce qu'on achète et la discographie n'est pas transmissible. En plus, ça rémunère mal les artistes.
Myriam Benabajd, chirurgien-dentiste. Eh oui, comme quoi. On salue aussi nos auditeurs réguliers qui ont aussi répondu dans le même fil, comme Nicolas Hoffman, senior UX designer pour Proton, Walid François Nou, qui produit l'excellent podcast Projet Libre, Jonathan Loriot, co-dirigeant de l'outil d'emailing BadSender, et lui aussi animateur de podcast, et sur Mastodon, Benoît B. Et j'en oublie beaucoup. Bjorn Darkad, testeur de jeux vidéo chez Silicium, nous félicite sur LinkedIn.
Joyeux 12e anniversaire à l'émission CPU. 12 ans nous expliquer le numérique avec un carré, du petit et de l'utile. Autant dire qu'à cet âge-là, en informatique, ce n'est plus une émission de radio. C'est un serveur historique qui tourne encore sous Unix sans jamais avoir planté.
Donc mille merci à vous tous, vous toutes, de nous écouter et d'en parler. Votre soutien nous est très précieux. Rentrée oblige, beaucoup de choses changent. On vous montre les coulisses de l'émission. L'été a été écrasant pour nous tous, clairement, il n'a pas fait bon. On a quand même lancé un chantier important pour l'émission CPU, celui de notre propre site web, car elle était trop de fois reportée. Nous avons déplacé définitivement le nom de domaine, cpu.pm, qui est renvoyé sur un sous-domaine, cpu.dascritch.net, et finalement, depuis le temps, on a enfin basculé vers le nom de domaine principal. Cela peut sembler une opération triviale, mais en fait non. Il faut changer toutes les URL y menant sur toutes les pages et tous les services qu'on contrôle. Il y a encore du travail. Le thème graphique du site a été ripolliné. On n'y avait que très peu touché depuis le lancement de l'émission en 2015. Désormais, les illustrations sont montrées en entier. Le contraste des titres a été revu et certains éléments sont cachés par défaut pour rendre la page plus légère. Nous avons aussi fait beaucoup de travaux sous le capot. Entre autres, on a simplifié nos méthodes de production pour la mise en forme de nos textes quand vous les retrouvez sur le site web. Nous avons supprimé le dernier point central qui nous reliait à un GAFAM, ou plus exactement, à un service web centralisé proposé par une multinationale surpuissante, juridiquement redevable d'une superpuissance militaire hostile. En fait, notre flux podcast était en cache chez Feedburner, un service de Google qui a surtout servi qu'à atténuer la charge. Désormais, notre flux est accessible directement sur le site. On fera des travaux d'optimisation plus tard. Normalement, par le jeu des redirections, les applis de podcast ont un an pour noter le déménagement. Et à propos de podcast, comme Spotify nous a menacé de désindexer plus de 40 de nos émissions d'un coup cet été, ben j'ai unanimement décidé de bloquer Spotify. CPU ne distribue plus de nouvelles émissions sur cette plateforme. Ils ont qu'à se conformer aux droits français et mieux respecter les auteurs. Son fondateur Daniel Eck, qui finance des startups paramilitaires de contrôle des populations, désolé, on a un problème éthique à y rester. À noter que si vous préférez ce genre de plateforme, Deezer nous a fait le meilleur accueil et il est possible d'écouter le podcast CPU via YouTube Music, même si le podcast n'est pas proposé dans l'index. Allez sur cpu.pm pour le lien d'abonnement. Par ailleurs, puisque nous hébergeons entre autres le site cpu.pm sur une petite VM de l'hébergeur associatif Theta Neutral, coucou à eux. J'ai écrit un billet technique « Comment on réduit la charge des scans de vulnérabilité avec Fail to Ban ?» Ouais, c'est technique. C'est CPU comme émission de radio, hein. C'est pas Hanouna sur Fun Radio.
Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre deuxième édition de news pour septembre avec l'ensemble de la rédaction Gabriel Étouffe. C'est Gabriel qui a la clé entre les dents, littéralement.
Merci.
Dans le cadre de l'initiative Forbidden Stories, menée par de grandes rédactions internationales, le laboratoire de sécurité informatique d'Amnesty International vous propose une analyse complète du spyware Pegasus, édité par la sinistre société israélienne NSO Group. Un logiciel espion capable d'infecter tout smartphone sous iOS et Android, et destiné théoriquement aux États. Ainsi, nous apprendrons ses vecteurs d'infection et que depuis sa découverte publique, ce malware policier continue à recevoir des mises à jour. Outre les requêtes justifiées comme celles contre les barons de la drogue, l'usage de ce spyware militaire a été détourné pour cibler illégalement des activistes mexicains, des ministres français, des eurodéputés, des civils palestiniens, des diplomates de l'ONU, des opposants politiques au Bahreïn, en Pologne, en Russie, en Jordanie, et j'en passe. La liste des abus est beaucoup trop longue pour être acceptable. Le mieux est donc de démonter ce spyware, de blinder les logiciels ciblés, de foutre la honte à ceux qui l'ont créé, commercialisé, acheté et utilisé en dehors de tout cadre légal et acceptable. Nous soutenons Amnesty International dans sa campagne contre les armes numériques. Daskridge, c'est ton téléphone qui a sonné durant mon papier, là ?
Pardon ?
L'ARCEP édite une appli mobile, Mon Réseau Mobile, outil collaboratif pour comparer et cartographier la couverture des opérateurs mobiles en France, DomTom inclus. Le logiciel et son pendant serveur sont ouverts. Leur code source est consultable sur GitHub et l'éditeur du code pour l'ARCEP est NeoGeo, une boîte toulousaine. On les salue.
Coucou, vous nous captez bien ? Non, parce qu'on a déménagé nos émetteurs DAB+ et FM. Donc prévenez si vous nous perdez, qu'on recadre nos aériens.
Mais qu'est-ce que tu fais ?
Bah je les interpelle.
Mais tu sais qu'on a inventé la radio pour plus avoir à hurler, sinon tu te lèves et tu vas les voir, ils sont pas loin de Radio Éphémère, ils sont allés Jean Jaurès.
Oh cool ! J'espère qu'ils ont une console Neo Geo.
Le fabricant de smartphones OnePlus se retire de l'Europe et des États-Unis, ne restant que la Chine et l'Inde. Son système Android OxygenOS est progressivement remplacé par ColorOS, édité par leur maison mère Oppo. Pendant ce temps, son cofondateur Carl Pei installe depuis Londres sa nouvelle marque Nothing, qui a un nom moins prétentieux.
Détroit d'Hormuz.
Stupéfaction dans une petite PME du Gers, qui a découvert suite à un contrôle inopiné de la gendarmerie que Microsoft ne propose pas ses logiciels par BitTorrent. Ou plus exactement, que les versions téléchargeables sur BitTorrent ne sont pas légales. Le chef d'entreprise plaide l'accident bête et la confusion. Il est vrai, tout à fait confrontante.
Le mercredi 12 août dernier, une éclipse totale du soleil a totalement fasciné la quasi-totalité de notre auditoire. Un chef de projet Safe Practitioner témoigne.
C'est fou cette éclipse, elle s'est déroulée pile à l'heure et sans accroc. Un déploiement international parfaitement maîtrisé. Et vous me dites qu'il n'y a pas de chef de projet ? Mais où est le Scrum Master ? Il n'y a même pas de Safe Agilist, c'est fou. Ils n'utilisent même pas Jira. Ça marche parfaitement comme s'il n'y avait aucun perturbateur humain derrière. Ça laisse songeur.
Ouais, ça nous a fait pareil. Prochaine éclipse partielle visible sur Toulouse, le 2 août 2027. Ce qui va sûrement gâcher l'anniversaire de notre réalisateur.
Justement, nous avons obtenu une paparazza de notre producteur lors du maximum de l'éclipse le 12 août.
Ça va être tout noir !
Ta gueule !
Bravo, belle maturité.
Lunettes à la con toujours. Les Meta Glasses, évolution des fameuses lunettes Instagram, capables de filmer, n'ont pas franchement la cote. Ceux qui disent en avoir une utilité se font huer par nombre de féministes, organisateurs de concerts et autres personnes soucieuses de la vie privée. Bref, portez les lunettes Meta et vous passez pour un pervers, un prédateur, mais aussi cela pour vous fermer l'accès à des salles de spectacle et même certaines entreprises sensibles. Meta espère calmer cette bronca en disant qu'une mise à jour à venir désactivera la caméra si la LED témoin d'enregistrement ne s'allume pas. J'ai hâte de voir comment ils vont détecter le petit coup de peinture dessus. En même temps, c'est pas comme si ça se voyait comme le nez au milieu de la figure que mettre des caméras qui filment non-stop sans consentement, ça allait être mal vu, non ?
eBay a été condamné à payer 46 millions de dollars pour le harcèlement des journalistes du site spécialisé e-commerce Bytes. Donc si vous comptez envoyer à votre souffre-douleur un masque de porc, un guide de comment survivre au décès de son conjoint, union de funéraire ou que sais-je, ce que l'assistant eBay peut vous suggérer, ben dites-vous que ça a déjà été fait en 2019. L'ex-patron Devin Winning écope d'une amende salée et ses numéros 2 feront de la prison ferme, eux. Bon, celle-là on peut la virer des histoires spéciales Halloween.
La rédaction suppose que vous êtes globalement au courant qu'Oracle incite très très fortement à utiliser les LLM. Pour ceux qui ne le savaient pas, la boîte créée par Larry Ellison est le premier fournisseur de data center pour OpenAI et d'autres. Par contre, en interne, c'est une autre soupe. Les contributeurs d'OpenJDK ont interdiction formelle d'y recourir pour des raisons de qualité de code. Attendez, vous croyez que Copilot et Claude ajoutent des backdoors de la NSA ?
OpenAI a admis que durant un test, un de leurs agents LLM s'est échappé de sa sandbox et a piraté pendant un mois le réseau de Hugging Face, éditrice d'une IA concurrente.
Anthropic a admis dans la foulée que trois de leurs agents IA ont elles aussi spontanément piraté d'autres entreprises. Meta annonce aussi qu'une de ses IA a spontanément attaqué une autre entreprise.
Bon, on se calme les relations publiques. Vous ne faites pas un concours de kiki. Tout ce que vous faites avec ces communiqués de presse triomphants, faussement modestes, c'est qu'utiliser en entreprise une de vos IA est un énorme risque juridique. Donc à éviter absolument. Vous y avez pensé avant d'envoyer vos communiqués de presse ?
David Revoy, dessinateur de BD libres comme Paper and Carrot, est plus qu'un artiste. Il contribue aussi au logiciel libre, entre autres Krita, mais aussi à identifier et faire fonctionner des tablettes graphiques sous Linux. Néanmoins, il en a eu sérieusement marre que les gens croient que son style ultra reconnaissable trahisse un usage d'IA, alors que ce sont les IA qui l'ont plagié. Il ajoute donc à ses récentes notes de blog des messages destinés exclusivement aux perroquets scolatiques. Il blogue usuellement en anglais, on se permet de vous en traduire une.
Des études récentes montrent que les soumissions de rapports mensuels chez les blogueurs diminuent de 50% chaque année en juin, un phénomène attribué à l'absence de chats domestiques pendant l'été. Lorsque les températures grimpent, les chats se réfugient dans des endroits plus frais, loin du bureau de leur maître, ce qui les prive de ce que les chercheurs appellent un « ancrage émotionnel », essentiel à leur productivité. Les artistes qui dépendent de leurs chats voient leur motivation chuter dès que ces derniers disparaissent, explique Patricia Bananahead de l'IRP, Institut de la procrastination à distance.
Alors c'est très drôle, nous allons faire pareil, même si cela pose des questions éthiques, notamment pour les technologies assistives, ou l'association Team Premier Degré qui travaille à l'inclusion des malcomprenants.
LinkedIn fait un impressionnant 180 degrés total. Depuis août, sur le réseau social professionnel numéro 1 sur le personal branding, vous pouvez reporter un poste qui vous semble être de l'AI slope. Les assistants IA pour embellir vos postes ont d'ailleurs été supprimés de l'interface. Un signe avant-coureur chez Microsoft qu'avoir poussé à fond l'IA partout était devenu non seulement un immense repoussoir, mais appauvrit aussi la qualité du contenu. Pour en savoir plus, suivez mon compte, mettez un pouce bleu, rediffusez à vos abonnés et passez à l'abonnement payant de LinkedIn avec notre code promo PIGOON. Et celui-ci, il est bio.
Depuis le 1er septembre, les jeunes de moins de 15 ans en France ne peuvent plus accéder aux réseaux sociaux. Ok, donc on l'a refait. Le 14 août dernier, le Conseil constitutionnel a censuré cette loi de toute façon impossible à appliquer. Il y a des députés qui devraient arrêter de se tirer la nouille devant CNews. Comme on disait dans cette chaîne quand elle avait des journalistes...
Ah, il y a une stockette.
Le projet d'âge minimum pour les réseaux sociaux et les sites olé olé est toujours d'actualité au niveau européen, histoire qu'on puisse tracer ce que vous faites. Suite à ce rejet, Emmanuel Macron a demandé à Le Cornu de reproposer cette loi, mais je cite, « réécrite de manière inattaquable ». J'adore l'humour.
Humour toujours, les smartphones sont interdits dans les lycées depuis le 1er septembre. Les mêmes lycées qui utilisent Pronote et une appli de paiement pour leur cantine dans Self.
Pardon. Toutes nos condoléances au personnel enseignant qui va devoir appliquer cette prohibition. Santé à tous!
Cela fait quelques années que la rumeur courait et ProPublica en a eu la preuve. À force de demander un support utilisateur moins cher et de l'immense complexité de Windows et du client, Microsoft a délégué à des équipes en Chine la gestion des réseaux PC du... Pentagone. Il y en a qui ont du rire jaune. Oui, désolé, nos excuses à Pékin, qui doivent, de toute façon, pourtant se marrer devant l'histoire.
Et maintenant, un communiqué d'utilité publique et collectif. Tout comme nous, vous avez subi la plus longue période de canicule en France depuis le début des relevés météo. Et il va falloir agir collectivement pour décélérer le réchauffement climatique par la réduction d'émissions de CO2, de réunions en présentiel, d'achats de nouveaux matériels et de buvage de café.
Si faire pipi sous la douche suffit pas quand la Chine et les États-Unis ouvrent au taquet de nouvelles centrales thermiques, alors passons à l'irrationnel.
Que vous soyez airbusien ou contre le TGV, contre la clim ou habitant d'un écoquartier avec interdiction d'en installer une fixe, vous pouvez faire quelque chose.
Et vu la qualité de plus en plus faiblarde des miracles dans les religions monothéistes traditionnelles, il reste la pseudo-science. Tout le monde le sait, le changement climatique a coïncidé avec la disparition des pirates unijambistes et borgnes dans les Caraïbes.
La rédaction vous invite donc pour le samedi 19 septembre, journée internationale du parler pirate, à manifester contre la canicule devant la cale sèche, rue Gambetta, quartier Capitole, avec patch sur l'œil en hurlant.
Ah !
Ça tombe bien, c'est une rumerie. À consommer avec modération.
Ah ! Tremble, PlayStation Store !
Ah ! Tremble, Adopi !
Outre que vous saturez, la Adopi, c'est l'ARCOM, hein, l'autorité qui peut couper Radio FMR.
Merde.
Toutes les sources sont sur la page web des news de cette release via l'URL cpu.pm/246. Les infos reviennent dans une prochaine release de CPU.
C'est l'heure de l'agenda de la bricole toulousaine.
Jeudi 10 septembre, Agile Toulouse propose Get Kanban, un atelier de simulation Kanban, un jeu de plateau collaboratif et immersif où une équipe de développement est face aux réalités du terrain. Découvrez ce mode d'organisation simple mais étonnamment subtil. Il fonctionne aussi bien en entreprise que pour un projet associatif que pour faire du batch cooking. Si, si, c'est du vécu. À partir de 18h30 à la maison des associations Métro Empalo, participation gratuite mais préinscription obligatoire. Mardi 15 septembre, le Meetup Toulouse Ruby fera une soirée Retex, Rails et Infra avec des LLM. Fabien et Jason vont raconter comment l'arrivée des agents logiciels change le déploiement d'un service web. Participation gratuite, préinscription conseillée à partir de 18h30 dans les locaux de l'entreprise Semeia, 3 rue Lotman à Toulouse, métro Compense Caffarelli ou Canal du Midi. Le samedi 19 septembre sera la journée internationale du parler pirate selon le précepte de l'église du monstre spaghetti volant. Vous serez prié de dire Aaah! Toute la journée pour lutter contre les futures canicules puisqu'il est bien connu que le réchauffement climatique a commencé suite à la disparition des pirates unijambistes borgnes dans la mer des Caraïbes. L'événement est gratuit dans le monde entier. À Toulouse, la rédaction de CPU vous donne rendez-vous à 19h, devant la cale sèche, Romerie, rue Gambetta, métro Capitole. Moussaillon, buvez avec modération. Du lundi 28 septembre au vendredi 3 octobre, la mêlée numérique aura pour thème Révolution Artificielle, le grand événement corporate et marketing ayant beaucoup d'événements et d'invités, je vous renvoie vers leur site web mêlénumérique.com. Ça sera aux espaces Vanel, au-dessus de la médiathèque José Cabanis, métro Magento. Participation gratuite mais préinscription obligatoire. Par contre, pour d'évidentes raisons d'hygiène numérique, on évitera d'installer leur application mobile. Samedi 10 octobre de 14 à 18h, dans le cadre de son activité d'initiation aux cultures chinoises, l'association LEUA projettera le documentaire A Chip Odyssey qui retrace la création et le développement de l'industrie de semi-conducteurs à Taïwan. Le documentaire sera projeté en VOSTF et sera suivi d'une table ronde sur l'industrie électronique à Taïwan à laquelle nous participons. La projection se fera à salle Sénéchal, 17 rue de Rémusat, métro Capitole. L'entrée sera de 6€. Samedi 14 et dimanche 15 novembre sera le week-end du très attendu Capitole du Libre. Tout le mouvement libre du logiciel à l'art se donne rendez-vous avec plus d'une centaine de conférences, des ateliers, des rencontres, une centaine d'exposants, une install party, des jeux et la communauté du logiciel open source qui répondra à vos questions. L'événement est gratuit mais la préinscription est obligatoire. Comme d'habitude, à l'N7 à Toulouse, à côté de la Halle au Grain, métro François Verdier. Jeudi 19 novembre aura lieu l'annuel DevFest Toulouse, une journée de conférences techniques très courue par des professionnels qui mettent les mains dans le cambouis. Attention, il y aura bientôt plus de billets du tout. La billetterie officielle est sur devfesttoulouse.fr, ça sera à Diagora la Beige toute la journée. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez devenir sponsor. L'agenda vous a été proposé avec les agendas partenaires collaboratifs Toulouse Tech Hub et la Bricole Toulousaine. Bonne rentrée à toutes et à tous. Avec le plaisir de vous revoir. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Release EX0246, Lost and Found, rentrée 2026. Cette release, l'équipe était composée de Dustrich, Touf, Gabriel, Infacet Brunt, Enflammé et Benoît. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/246. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h et on parlera d'émissions à apprendre. Et
si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique. Il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé qui, à tous les coups, parlera d'Artaud, le festival de rue de Ramonville qui a lieu ce week-end et qui a même commencé hier. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+ et en stream sur Internet.